Nous voulons vous souhaiter la bienvenue ici à Nouvelle Vie, à Longueuil, Québec, Canada, mais aussi à vous tous qui nous suivez aux quatre coins du Québec. Bienvenue à Nouvelle Vie, les gens qui nous suivent de Nouvelle Vie sur 8 sites partout au Québec et à notre communauté en ligne. Bienvenue à Nouvelle Vie chez vous, partout à travers le Québec et la francophonie. Le message ce matin, un message particulier, Israël et Gaza dans la prophétie biblique. Israël et Gaza dans la prophétie biblique. Si vous êtes surpris qu'une église chrétienne ou qu'un pasteur aborde ce sujet, nous estimons que c'est notre responsabilité et devoir de le faire parce que nous avons une source de renseignements et d'informations uniques et infaillibles, la Bible. Amen. La Bible est le seul livre religieux au monde dont il y a un tiers de la Bible qui est prophétique, qui annonce depuis des millénaires des événements et qui est parfait dans l'accomplissement de tout ce qu'elle annonce. Un tiers de la Bible qui est prophétique, écrit sur une période de temps couvrant des millénaires, mais encore plus spécifiquement notre époque moderne. C'est pourquoi nous pouvons, à partir de la parole de Dieu, apporter des messages comme j'ai fait il y a un an, avec comme titre, comme thème, la Russie et l'Ukraine dans la prophétie biblique des temps de la fin. Le message est en ligne sur notre, vous pouvez vous joindre sur notre, sur YouTube et vous allez pouvoir télécharger le message gratuitement. Il y a 216 000 visionnements déjà sur notre chaîne YouTube. C'est pourquoi nous pouvons répondre à la question que les disciples ont posée il y a 2000 ans à Jésus, mais qui est encore brûlant de pertinence et d'actualité. Dans Matthieu, chapitre 24, versets 3 et 4, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand la fin du monde va arriver? Quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Les signes sont nombreux, sont évidents et s'accomplissent dans le temps. C'est pourquoi nous avons fait, il y a aussi une série qui est en ligne disponible, une série de 7 messages, encore une fois en ligne, gratuitement, intitulée « La fin des temps et moi, 7 heures d'enseignement ». Qui est sur notre chaîne YouTube, qui couvre une multitude de sujets. C'est très significatif que Jésus a donné cet avertissement. Prenez garde, soyez alerte. Prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous trompe. Parce que lorsque nous regardons et étudions les temps de la fin, il y a toutes sortes de façons dont nous pouvons être séduits. Alors Jésus a dit, prenez garde de ne pas être séduits. Nous pouvons être séduits par ceux qui prétendent ou lorsque nous pensons pouvoir connaître le quand, la date exacte du retour de Jésus. Jésus a dit, personne ne connaît le jour exact de son retour, même pas le Fils, seulement le Père. Et à travers l'histoire, même récente, à chaque fois que des groupes évangéliques chrétiens nomment une date, c'est un moment d'embarrassement. En 1900, beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés, tous les jeunes qui sont ici, mais en 1987, les plus vieux se rappelleront, en 1987, un des best-sellers numéro un en vente comme livre chrétien en Amérique du Nord était un livre qui s'intitulait « 87 raisons que Jésus revient en 87 ». C'est évident qu'en 88, les ventes de livres ont baissé. On va être séduit lorsqu'on pense qu'on va connaître la date. Nous pouvons être séduits en cherchant à simplifier, lorsqu'on regarde à Israël-Gaza dans la prophétie biblique, nous pouvons être séduits si nous cherchons à simplifier un conflit millénaire avec des enjeux de complexité historique, sociale, religieuse, spirituelle et humaine unique dans l'histoire du monde. Israël et le Moyen-Orient sont l'épicentre de l'histoire humaine passée, présente et future. Et c'est une complexité qui nous appelle à l'humilité. Nous pouvons être séduits, Jésus a dit, faites attention de ne pas être séduits. Nous pouvons être séduits par un manque de compassion et d'empathie pour Israël et pour Gaza. C'est une des plus grandes fautes et tares de l'Église chrétienne moderne face à ces sujets-là. Notre première réaction, si on a la moindre parcelle du cœur de Dieu, Notre première réaction face à tout ce qui prend place, c'est une réaction de compassion. C'est une réaction de pleurs, de compassion, d'empathie face à la souffrance atroce, le deuil, les drames, les crises humanitaires, les traumatismes intergénérationnels. L'empathie, c'est de se mettre à la place de l'autre. Aucun d'entre nous n'avons vécu en Israël ou dans la bande de Gaza ou en Palestine depuis des générations. Aucun d'entre nous ne vit en ce moment cette guerre comme les Juifs et les Gazaouis la vivent. Et ça nous appelle à cette compassion. Nous pouvons être séduits en nous enfermant dans la chambre des échos et des miroirs des médias sociaux où la majorité ne font que nourrir leur propre position sans écoute, sans considération, ni honnêteté intellectuelle, morale, pour essayer de comprendre la réalité et le vécu de l'autre. Je nous défie ici et en ligne, je nous défie comme chrétiens à être meilleurs que ça, à écouter et à avoir une écoute pour ce qui prend place. Et quelqu'un devrait dire amen et applaudir un peuple qui écoute, qui réfléchit et qui a de l'empathie. Nous pouvons être séduits par des personnes qui instrumentalisent l'horreur d'une guerre pour leur gain sordide et leur élévation personnelle. Je regardais, il y en a des centaines et centaines, mais j'ai regardé cette semaine une interview de la BBC avec un influenceur musulman pro-Hamas qui littéralement nie que les événements du 7 octobre ont pris place. Il dit, c'est pas vrai, c'est Israël qui a inventé ça, maintenant on est capable de faire du deepfake, c'est des photos, c'est même pas vrai, il y a même pas de preuves. L'animateur savait pas où aller, niait, comme des gens encore aujourd'hui nient l'Holocauste, niait que ça a même pris place. Le problème, c'est que ce n'est pas un marginal. Il y a 2 millions de personnes qui le suivent sur YouTube et son reach, sa portée est de 5 millions de personnes par semaine. Alors, prenez garde, il y a des gens qui en ce moment instrumentalisent l'horreur humaine, la souffrance humaine pour leur gain à eux. Nous pouvons, prenez garde que personne ne vous séduise. Nous pouvons être séduits par l'orgueil et l'arrogance de penser tout savoir. Écoute-moi, il y a des experts, des historiens du Moyen-Orient et des deux côtés de cette guerre qui étudient et analysent ce conflit depuis des décennies. Nous devons refuser farouchement toute forme d'amalgame et de généralisation. Les Juifs sont, les Palestiniens sont, les Arabes sont, les musulmans sont. Nous ne sommes pas, nous refusons tout amalgame. Même à l'intérieur du monde chrétien, il y a des théologiens chevronnés en eschatologie, qui est la théologie des temps de la fin, qui ont consacré leur vie à l'étude des Écritures avec des positions et doctrines différentes sur les signes, sur le camp et certains aspects de la séquence des événements, en particulier en ce qui concerne Israël dans la prophétie biblique, et qui sont en accord sur les essentiels de la foi chrétienne. C'est pourquoi j'apporte ce message ce matin avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de retenue et beaucoup de tremblement et de prière. Alors j'entends quelqu'un penser, studie tout ça, Pasteur Cole, pourquoi le faire le message d'abord? Et franchement, c'est une bonne question. Je me suis dit ça cette semaine quelquefois. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la pire séduction, la pire erreur, celle qui serait fatale et de conséquences éternelles pour toi, pour ton âme, pour ta destinée, c'est de balayer la Bible et le message de Jésus du revers de la main. Jésus est le seul chemin entre Dieu et les hommes. Il n'y a aucun autre chemin. Et Jésus est la seule réponse et solution à tous les maux et les besoins des hommes et ceux qui l'ont vécu. Voulez-vous applaudir celui que nous élevons dans ce lieu? Applaudissez le nom de Jésus. Lorsqu'on parle de l'accomplissement des prophéties bibliques, c'est important de comprendre qu'il y a des accomplissements qu'on pourrait qualifier de généraux et génériques, et il y a des accomplissements générationnels. Lorsque Jésus, dans les évangiles Matthieu 24, Marc 13, Luc 21, répond aux questions des disciples sur les temps de la fin, il liste des signes dont certains sont génériques, sont présents tout au long de l'histoire, des guerres et des bruits de guerre, nation contre nation, famine, tremblement de terre, persécution et mise à mort de chrétiens qui prend encore place partout à travers le monde à chaque jour. Ces choses-là ont toujours été là dans l'histoire. Les gens disent, viens pas me dire que t'es dans les temps de la fin. Ces choses-là ont toujours été là. Mais il y a une accélération de l'accomplissement prophétique jusqu'à une génération de la fin. Dans Matthieu 24, après avoir donné toute la liste, Jésus dira, je vous le dis en vérité, sept générations. Voulez-vous dire à voix haute avec moi, sept générations? cette génération. Il y en a une génération qui ne passera pas que tout cela arrive. C'est une loi fondamentale de l'eschatologie. Jésus a dit que les signes s'accompliront comme les douleurs de l'enfantement, d'une femme qui donne naissance. Les douleurs qui augmentent en intensité et en fréquence, en rapprochement. Les contractions de plus en plus fortes et les contractions de plus en plus rapprochées. C'est ainsi que les signes des temps s'accomplissent. Et dans le langage biblique, une génération se mesure approximativement à une période de 70 à 80 ans. Plusieurs sont plus vieux que cela aujourd'hui. Mais dans le langage biblique, psaume 90 nous dit, « Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes, 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est qu'une peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Enseigne-nous donc à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à connaître ta sagesse. » La première chose si importante ici, combien sont reconnaissants et peuvent témoigner, notre Dieu a été, il est et il sera notre refuge de génération en génération à travers toutes les âges. La deuxième chose importante, c'est que l'orgueil que nous tirons de nos jours sur cette terre, ça passe vite. Et nous nous envolons. Dites à quelqu'un près de vous, ça passe vite et tu t'envoles. Dites ça à quelqu'un près de vous. La troisième chose tellement importante, combien croient que chacun de nous avons besoin de reconnaître que je peux encore grandir en connaissance, que j'ai encore tellement besoin d'apprendre plus à comment ne pas gaspiller mes jours et à comment faire compter mes jours devant Dieu. Combien ont besoin de plus de connaissance et de sagesse? Dites amen. Je vous oblige à dire amen. Alors, lorsqu'on parle des signes générationnels, encore une fois, je fais référence à la série parce qu'on avait mis énormément de travail là-dedans. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir dans la série que nous avons faite, les temps de la fin, et moi, il y avait des signes qui s'accomplissent, qui sont accomplis dans notre génération. Des signes comme les changements climatiques, la création entière qui gémit, nous dit la Bible, était prophétisée dans la Bible. Les inégalités sociales et économiques. Le capitalisme sauvage, le globalisme social, médiatique, politique et économique, les épidémies mondiales, globales, où le monde entier doit s'arrêter, la mutation de virus mortel était prédite pour la génération de la fin, la diminution jusqu'à la disparition éventuelle de l'argent comptant, une société où les échanges et tractations économiques individuelles et globales sont informatisées, était dans la Bible. Dites à la personne près de vous, oui, c'est dans la Bible. Dites ça à quelqu'un près de vous. Il y en a qui ont l'air surpris. Et des centaines et centaines de prophéties concernant Israël, concernant ses ennemis, concernant le monde entier, le Moyen-Orient et le monde, se trouvent dans la Bible. Israël est le pivot de toute la prophétie biblique. Si Israël est au cœur de la prophétie biblique. La Bible n'est pas seulement un livre religieux, c'est qui traite de spiritualité, c'est un livre historique. La Genèse enseigne que Dieu a donné cette terre à Abraham. Abraham n'était pas juif, il était d'Uran Chaldée, qui est l'Irak moderne, et Dieu a déclaré qu'une nation naîtrait de cette alliance avec Abraham, de l'alliance naîtrait une nation, de la nation naîtrait un sauveur, un messie pour le monde entier, Jésus-Christ, Yeshua notre sauveur, un sauveur qui naîtrait, qui vivrait, qui mourrait et ressuscitera en Israël et il reviendra à la fin de toute chose poser son pied en Israël encore une fois. C'est fascinant lorsqu'on parle de la Bible, Genèse, Abraham, c'est fascinant que Israël et de nombreux pays arabes et musulmans ont travaillé et ont signé entre 20 et 23 ce qu'ils ont appelé les accords d'Abraham, en référence au récit historique de la Bible. Les Juifs vivaient 2100 ans avant qu'il y ait la création de la Palestine, vivant en Israël, et 2600 ans avant la naissance de l'islam. La Bible est comme toujours certifiée et elle est confirmée par l'archéologie. Il y a des pierres anciennes égyptiennes datant de l'an 1300 avant Jésus-Christ qui nomment Israël comme occupant du pays, comme étant leur pays. Aussi d'autres pierres 700 ans avant, 900 ans avant, qui réfèrent à Israël, au roi à David et aux récits historiques tels que décrits dans la Bible. Voici ce qui est arrivé historiquement. Pour des milliers d'années, les Juifs ont vécu en Israël, ce pays que Dieu leur a donné. Pourquoi d'autres disent-ils, alors maintenant, c'est notre territoire? parce qu'en 586 avant Jésus-Christ, quand les Babyloniens ont conquis et pris possession de leur territoire, de 586 avant Jésus-Christ, aller jusqu'à 1948, 2500 ans, quand Israël est redevenu une nation, ils ont été dispersés, ils ont été tués, ils ont été écrasés, oppressés, et ceux qui demeuraient dans le pays ont subi l'abus et l'abus de différents empires, une succession d'empires sur les générations à qui les ont dominés, les Babyloniens, les Perses, les Grecs, les Byzantines, l'Empire arabe islamique, les croisades catholiques, l'Empire ottoman, l'Empire britannique. Alors vous dites, d'où viennent les Palestiniens? En l'an 135 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien, pour écraser une révolte et anéantir ce qui restait des Juifs, a établi une région qu'il a nommée Palestinia, du latin pour le mot « les Philistins ». Littéralement, l'ennemi voué à éliminer Israël. Cet empereur signifiait ainsi, je vais vous déshonorer en nommant votre territoire, votre pays du nom de ceux qui vous haïssent de génération en génération et qui verseront le sang pour votre destruction et votre élimination. Alors cette période jusqu'à 1948 après Jésus-Christ, quand Israël est redevenu la nation et a repris ce qui a toujours le nom qui a toujours été le sien. Il y a des centaines de prophéties bibliques qui parlent d'Israël à travers les siècles, mais particulièrement sur ce que la Bible appelle les temps de la fin que nous croyons vivre en ce moment. Vous pouvez regarder à travers la Bible entière. Je vous donne quelques versets que j'amalgame ensemble qui sont sur Israël de la fin, de Zacharie, du prophète Zacharie 12 et 14, de Joël 3 jusqu'à Jésus dans Luc 21. Regardez les paroles de la Bible concernant Israël dans les temps de la fin. Parole prophétique de l'Éternel sur Israël. Voici Jérusalem sera une coupe d'étourdissement et d'agitation pour les peuples autour. Parce que ce n'est pas ce que vous voyez en ce moment. En ce jour-là, Jérusalem sera une pierre pesante pour tous les peuples et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris. Et encore une fois, c'est ce qui prend place. Israël sera attaqué, les villes seront prises d'assaut, les maisons mises en ruine, les femmes violées, les fils et filles tués, enlevés et emmenés captifs ou en otage. Ses ennemis chercheront à se partager son territoire et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront pas quoi faire. Les hommes auront l'âme remplie de crainte dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre et de l'Holocauste, du génocide de 6 millions de Juifs de 1939 et 1945 à l'attaque barbare du Hamas du 7 octobre, la prophétie biblique sur Israël s'accomplit sous nos yeux. Et je veux simplement vous présenter trois pensées très simples aujourd'hui dans ce message Israël, Gaza et la prophétie biblique. Et la première, c'est une perspective de ce qui est définitif. Il y a tellement de désinformation et de manipulation médiatique fondées sur des idéologies qu'il va être difficile pour nous dans les mois à venir de savoir vraiment ce qui prend place en temps réel. Je vous donne l'exemple de l'hôpital qui a été bombardé à Gaza tout de suite. Certains, je ne les nommerai pas, mais certains dirigeants m'ont dit tout de suite, on accuse Israël, c'est terrible, ils ont bombardé 500 morts. Quelques jours à peine, le lendemain et surlendemain, plusieurs sources, dont Al Jazeera, qui est une station qui est pourtant très pro-palestinienne, estime avoir des vidéos donne preuve que c'est un missile du Hamas. Au début, ils ont dit 500 morts. Non, c'est pas 500 morts, c'est 50 morts. Chaque mort est une mort de trop. Mais nous devons avoir une certaine perspective de ce qui est définitif. Une perspective de ce qui est définitif, les faits. Et ce qui est définitif, c'est que le 7 octobre, le Hamas a tiré des milliers de roquettes vers Israël. Des membres de l'organisation terroriste ont attaqué des civils dans leur maison. C'était le pire massacre contre des Juifs, 1400 morts à date. Le pire massacre contre des Juifs depuis l'Holocauste. Des scènes comme 260 jeunes qui sont dans un festival de musique, qui sont massacrés, qui sont assassinés. Un massacre d'innocents, d'enfants, de vieillards, de décapitation de bébés, de familles brûlées vivantes, 1400 morts. Des parents assassinés, décapités et laissés morts devant leurs enfants. Des filles et des fillettes qui sont violées. Pasteur Claude, pourquoi tu es si graphique? Pourquoi tu dis les choses si précisément? Parce qu'il y a de larges segments des médias québécois qui sont d'un silence assourdissant sur ces massacres et actes barbares et sanguinaires, et j'ajouterais ces actes démoniaques. Des actes qui sont l'incarnation du mal. J'ai entendu un commentateur quelques jours à peine dire à une des émissions les plus écoutées au Québec, au moins une bonne chose qui va sortir de ça, c'est que ça va ramener le monde à la table de négociation. Non, non, on parle d'un massacre, on parle d'assassins, on parle de 200 personnes qui ont été enlevées par la masse qui menace de les assassiner si Israël refuse réplique à leur déclaration de guerre et de bombardement des civils. Le 18 octobre, le monde arabe et dans le monde entier, des centaines de milliers de personnes manifestent pour la Palestine et la Hamas dans ce qui est appelé le jour de la colère. En Jordanie et en Iran, plus de 1 million de personnes dans la rue qui ont crié pendant 6 heures de temps « Mort à Israël! Mort à Israël! Mort à Israël! » Ce qui est définitif, c'est que le Hamas est une organisation terroriste composée d'islamistes radicaux sunnites. Le nom Hamas est un acronyme en arabe pour mouvement de résistance islamique, mais le mot veut aussi dire force. Et en hébreu, c'est intéressant parce que le mot en hébreu Hamas, C-H-A-M-A-S, veut dire violence. Comme dans le texte de la Genèse où la terre était remplie de Hamas, était remplie de violence. Hamas n'a qu'une seule mission et raison d'être, c'est de tuer des Juifs et de faire disparaître Israël. C'est pas moi qui le dis, c'est leur propre charte qui énonce clairement, vous allez voir sur Internet, c'est du domaine public, allez voir sur le site de l'ONU, l'alliance du Hamas, 1988, voici ce qui a été annoncé au monde, Israël, le premier paragraphe. Israël va exister et continuer d'exister jusqu'à ce que l'islam ait fait disparaître Israël comme il a fait disparaître d'autres dans le passé. L'article 7, il y en a plein d'autres du même genre. L'article 7, le jour du jugement de la fin ne viendra pas avant que les musulmans aient combattu et tué le peuple juif. Attention, ce n'est pas la position, la pensée de tout le monde arabe ou de musulmans par millions du monde entier. Mais c'est cependant l'objectif clair et déclaré du Hamas et des millions qui les appuient et parmi eux des organisations encore plus terroristes, encore plus puissantes qu'eux comme le Hezbollah. Qui est le Hamas? Ils sont prêts à tuer et anéantir quiconque essaie de les empêcher. Et non seulement tuer des Juifs, tuer des Arabes aussi. Tuer des Arabes aussi, tuer leur propre peuple, tuer des musulmans dans la bande de Gaza. C'est une réalité reconnue historiquement, non disputée dans notre époque moderne, que le Hamas, depuis des décennies, se sert de leur propre peuple comme des boucliers humains. Des lance-missiles, des endroits de torture d'otages, des quartiers généraux, des usines de fabrication d'armes de destruction sont sous les bâtiments civils, dans des hôpitaux, nichés, dans des écoles, dans des marchés publics, des mosquées et divers centres culturels, des immeubles d'appartements, des quartiers populaires. Si Israël ne se défend pas, si Israël ne se défend pas, ils vont être éliminés. Si ils attaquent, ils touchent des civils, c'est l'intention du Hamas, et là, le monde se révolte contre Israël. C'est d'une grande complexité, parce qu'en plus de ça, il y a des centaines et centaines de milliers de Palestiniens en Palestine, à Gaza et les autres villes, qui sont complices et activement pro-Hamas sur une population de 2,4 millions. Nous nous réjouissons aujourd'hui ensemble du corridor d'accès humanitaire qui a été ouvert hier. C'est la réponse à nos prières et aux dons que nous envoyons également. L'eau potable, les soins médicaux, la nourriture, tout ce qui va être amené, de plus en plus de couloirs qui s'ouvrent. Est-ce qu'on peut applaudir les couloirs humanitaires qui s'ouvrent? Mais des organisations terroristes comme le Hamas, qui est contrôlée, financée et armée par l'Iran, ne veulent absolument pas la paix. Ils veulent détruire Israël. Le Hamas a même forcé des centaines de milliers de Palestiniens à rester à Gaza, alors que Israël avertit qu'ils vont entrer pour essayer de vaincre le Hamas, qui leur a déclaré la guerre avec les pires actes de cruauté et de barbarie de l'histoire d'Israël depuis 1948, sans aucune provocation, alors que c'était une période dans les dernières années de beaucoup de négociations et d'espoir de rapprochement. Depuis les fondements du Hamas et du Hezbollah, ils utilisent la violence et la terreur pour empêcher les accords de paix. En 1993, l'accord de Oslo, ça a été célébré dans le monde entier, un accord de progrès pour la paix entre les autorités palestiniennes et le gouvernement d'Israël. Hamas a combattu les autorités, renversé les autorités palestiniennes et tout de suite, pendant les discussions des accords d'Oslo, des attaques, des bombardements suicides, des kidnappings, des assassinats et des civils qui ont été kidnappés pour faire achoper les accords. Ils ont réussi. En 2006, le Hamas a pris le contrôle du territoire palestinien et utilise les fonds du support international par milliards pour fournir, pour bâtir leurs armements et pour construire des kilomètres souterrains pour pouvoir mieux attaquer, pour pouvoir mieux résister, pour pouvoir mieux, mieux terroriser. De 2020 à 2023, j'ai mentionné plus tôt, les deux parties ont travaillé à ce qui a été appelé les accords d'Abraham. Il y avait une ouverture sans précédent à des accords commerciaux et économiques entre Israël et de nombreuses nations arabes et musulmanes. Israël qui était ensemble avec des centaines d'articles sérieux mentionnant la possibilité grandissante de ce qui avait été présenté aux Nations Unies comme étant la possibilité d'un nouveau Moyen-Orient avec plus de paix, plus de prospérité, plus de sécurité. Mais le Hamas et le Hezbollah disent non. Et l'Iran dit non, jamais. Ils ont préparé et ils ont attaqué et ont fait exploser le monde avec un acte, une déclaration de guerre. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Nous n'appuyons pas tout ce que Israël a fait dans le passé ou Israël va faire. Israël n'est pas une nation sauvée et ce n'est pas un peuple d'anges. Loin de là. Nous n'appuyons pas tout ce qu'Israël a fait dans le passé. Il n'y a pas de gagnant dans la guerre, seulement des pertes. Dans la guerre, les innocents et la vérité sont souvent les premières victimes. Mais si vous regardez au plus récent conflit historique, les alliés ont loin d'avoir été parfaits dans la guerre contre les nazis, mais ça devait prendre place. Les gouvernements de l'Ukraine ont été loin d'être parfaits depuis 40 ans, mais ils ont été envahis et le monde répond. Israël a été attaqué et doit se défendre s'il veut survivre. Et nous pleurons et nous prions et nous portons ce fardeau. Nous prions pour la paix non seulement d'Israël, mais nous prions et nous portons à chaque habitant de la Palestine dans nos cœurs. Mais comme chrétiens et comme citoyens du monde, nous avons une source de compréhension, de connaissance, de perspective et j'oserais dire d'espoir et de paix ultime et de confiance pour l'avenir parce que nous croyons que Dieu est en contrôle du calendrier historique. Il est l'alpha, il est l'oméga, il tient tout entre ses mains. Et c'est là que les prophéties deviennent tellement extraordinaires. On parle de prophéties générationnelles. Je veux vous donner, il y en a tellement plus que ça, mais je veux faire une ligue du temps de notre génération, de 1948 à aujourd'hui, puis juste vous donner quelques signes, plusieurs en relation avec Israël, mais vous donner quelques signes, une parole, on la regarde ensemble à la perspective de ce qui est définitif, mais une parole prophétique à découvrir. 5 accomplissements prophétiques générationnels de notre génération qui s'accomplissent sous nos yeux. Le premier est en 1948. L'accomplissement numéro 1, Israël naît une deuxième fois. Ésaïe 11, 11 et 12. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois la main pour racheter le reste de son peuple dispersé dans une série de pays qui sont nommés. Et dans les îles de la mer, il élèvera une bannière pour les nations, rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. C'est arrivé dans notre génération. C'est arrivé dans notre génération. C'est le premier grand accomplissement prophétique. Israël naît une deuxième fois. Si nous sommes vraiment les dernières générations, ça veut dire que nous devrions pouvoir, c'est ce que nous faisons, regarder aux derniers 60, 80 ans et examiner des accomplissements prophétiques, empiriques, qui n'avaient jamais été accomplis avant, mais qui s'accomplissent maintenant sous nos yeux, dans notre génération. Israël est la seule nation du monde qui a cessé d'exister deux fois et qui a rené deux fois. La première fois, Babylone les emmène captifs autour de 580 avant Jésus-Christ. 70 ans plus tard, ils reviennent et naissent de nouveau. C'est ce que vous lisez dans Néhémie et Esdras. En l'an 70 après Jésus-Christ, Rome a conquis Israël sous l'empereur Tite qui a tué plus de 1 million de Juifs. C'est le premier grand génocide et l'autre qui a pris place, 39-45. Mais il y en a eu à travers toute l'histoire. Et là, ils n'ont pas été dispersés en Babylone, ils ont été dispersés dans le monde entier. Jusqu'en 1948, après l'Holocauste, où Israël redevient une nation, et non seulement telle qu'il avait été prophétisé, redevient une nation, la seule nation à renaître deux fois, mais redevient une nation en un jour. En un jour, c'est ce qu'Isaïe avait dit. Ésaïe 66. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays, une nation peut-il naître et être établi en un jour? La réponse aux hommes, cela est impossible, mais avec Dieu, tout est possible, et c'est ce qui est arrivé avec Israël. Regardez l'histoire. C'est la seule fois, le 14 mai 1948, le mandat britannique a été aboli et David Ben-Gurion a déclaré l'indépendance d'Israël et des grandes nations du monde ont reconnu en une journée la nation d'Israël. Je veux l'annoncer pour les nations, mais je veux l'annoncer pour ta vie à toi aussi. Ce que Dieu annonce, ce que Dieu promet, il va l'accomplir. Il va toujours l'accomplir. Voulez-vous applaudir le Dieu qui a tout entre ses mains? Notre Dieu. Une parole prophétique à découvrir, le premier signe Israël devient renaît une deuxième fois et est établi en un jour. Il y a le deuxième signe, deuxième accomplissement, on fait la ligne du temps. Dans notre génération, 1948, quelques signes dans notre génération, 1948. 1989, accomplissement numéro 2, les immigrants juifs russes reviennent en Israël, prophétisés à plusieurs endroits dans les prophètes. Jérémie 31, versets 7 et 8. Voici lorsque l'Éternel délivrera son peuple Israël dispersé dans les nations, il les ramènera de la grande nation du Nord. Il dira, voici, je les ramène, je les rassemble des extrémités de la terre. C'est une grande multitude de mon peuple qui avait été exilé au Nord, qui revient vers Israël. Si vous regardez à une carte géographique, c'est immanquable, c'est indiscutable. La Russie est directement, la plus grande nation, directement au nord d'Israël. Vous avez Israël, vous avez la Syrie, la Turquie, vous avez la Russie. En 1989, la chute du rideau de fer. L'ancienne Union soviétique était violemment antisémite, anti-juif. Et sur des générations en Russie, les empêchait de revenir en Israël. Il n'y avait aucune chance. L'Empire, l'Union soviétique les tenait avec une main d'acier. Mais le rideau de fer tombe et 1,7 million de Juifs de Russie sont revenus en Israël depuis, chacun d'entre eux accomplissant la prophétie biblique de Dieu que ce qu'il annonce, il l'accomplit. Les immigrants de la Russie reviennent, c'est un signe incroyable, et vivent en Israël. Il y a 9 millions de Juifs en Israël, 1,7 sont des immigrants russes qui sont revenus. Lorsque j'étais avec David Wolfenstein et qu'on faisait une conférence, j'ai eu le privilège d'enseigner le leadership en Israël, d'enseigner la communication de la parole en Israël et d'enseigner des grandes conférences avec David Wolfenstein. Et dans une des grandes conférences, il y avait près de 2000 personnes qui étaient rassemblées. Il y avait des traducteurs en hébreu, puis il y avait des traducteurs en russe en Israël parce qu'ils sont là. Comprenez-vous que Israël est un miracle que seulement la main de Dieu pouvait accomplir? Pensez-y, Israël, 75 fois plus petit en superficie que le Québec, proportionnellement, pensez-y, l'attaque du 7 octobre 2023 avec ses 1400 victimes est 30 fois plus grave pour Israël que le 11 septembre pour l'Occident. C'est hallucinant quand les médias parlent d'Israël comme la grande puissance, comme si le seul ennemi d'Israël était le Hamas. Ils sont 9 millions entourés de 150 millions de musulmans dans une grande partie, dont une grande partie est ouvertement hostile à Israël. L'Iran, la Jordanie, le Liban, c'est 100 millions de personnes avec même l'arme nucléaire, avec toutes sortes de capacités qui avouent avec une mission avouée et déclarée de la destruction d'Israël. Il y a 22 États arabes, il y a 5 États musulmans, il y a un État d'Israël. Et attention, l'explosion technologique du 21e siècle permettant une désinformation de masse à l'échelle mondiale contre Israël était prophétisée dans la Bible. C'est le troisième signe, c'est le troisième grand accomplissement. Comprenez que pour que les prophéties s'accomplissent, la Bible prédisait que ce qui semblait absolument irréalisable il y a 2000 ans. Une explosion technologique telle qu'elle rendrait possible plusieurs choses en même temps. Des communications globales simultanées, des armes de destruction massive, des nouvelles capacités de globalisation médiatique où le monde entier, parce que c'est ce que la Bible disait, les théologiens ne pouvaient pas imaginer comment ça pourrait arriver. Une globalisation médiatique parce que la Bible enseigne que le monde entier était pour avoir les yeux sur Israël et sur le Moyen-Orient en temps réel. C'est ce que Daniel a écrit 500 ans avant, 5 à 600 ans avant Jésus-Christ. Daniel 12, 1 à 4. En ces temps-là, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu de semblable depuis que les nations existent. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Est-ce qu'il y a des gens ici dont le nom est écrit dans le livre de vie et qui peuvent célébrer que vous êtes sauvés, que quel que soit ce qui prend place sur cette planète, vous êtes en paix parce que vous êtes... Quelqu'un devrait applaudir. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les morts en Christ ressusciteront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour leur honte éternelle, s'ils n'ont pas reçu le Seigneur. Ceux qui auront été sages, intelligents spirituellement, brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice que j'essaie de faire aujourd'hui, à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Regardez bien maintenant. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. En ces temps-là, plusieurs le liront, ils parcourront la terre et la connaissance augmentera. Wow! Ça, c'est écrit 605 à 562 ans avant Jésus-Christ. Le peuple est en captivité en Babylone et Dieu dit à Daniel, je vais te donner une prophétie, tu dois la sceller jusqu'au temps de la fin. Parce que les gens ne la comprendront pas jusqu'à la fin. C'est seulement les gens de la fin qui vont pouvoir avoir la compréhension de ce que je suis en train de te dire. Voici comment les peuples sauront qu'ils sont dans les temps de la fin, des temps de la fin, les capacités de voyage, de déplacement, du savoir, les connaissances et la science vont augmenter en un coup exponentiellement. Pensez-y. Pendant 3000, 4000 ans, une personne avait en moyenne la capacité de faire 40 kilomètres par jour, c'est à peu près ce qu'un cheval peut faire en une journée. Pendant des millénaires, en une journée. Après ça, les chevaux, les chars. Et là, tout à coup, à partir du début du siècle, les trains, les voitures, mais seulement de 60 à 1980, c'est tellement proche de nous que les gens ont commencé à parcourir des milliers de kilomètres en avion, en une journée. 1900 ans passent où la science n'avance presque pas. Et soudainement, tu as une capacité de transport pour toutes sortes de choses. Dans ces temps-là, plusieurs, ils iront de bout à bout, ils parcourront la terre. Capacité de transport pour votre voyage dans un tout inclus, mais capacité de transport aussi pour des sous-marins et pour des avions et pour des machines de guerre qui sont prophétisées dans la Bible pour les temps de la fin. Une explosion de connaissances, de sciences, la physique, la médecine, l'astrophysique, l'industrialisation, tout ça en une accélération. L'informatique, les armements, l'automatisation, la robotisation, les communications, le cellulaire, l'Internet, les réseaux sociaux, l'explosion digitale qui a pris place. Dites à la personne près de vous, ça va vite. Prophétiser dans la Bible comme un signe de la fin de la fin. De Daniel à 1900, progression très lente de la science, de la connaissance, des transports, des communications, technologie. Et voici l'évolution. En quelques années, de la charrette et les chevaux à roues, au train, à la voiture, à l'avion, au supersonique, à la capsule spatiale, de Jules César au roi Arthur, à Henry Ford, à Elon Musk. Du pigeon voyageur au messager, à la poste, à la radio, à l'imprimerie, au téléphone, au cellulaire, à l'Internet, aux réseaux sociaux, à l'intelligence artificielle. Du poignard à l'épée, au mousquet, au pistolet, au fusil à répétition, au canon, à la mitraillette, au tank, au char d'assaut, au napalm, à la bombe atomique, au nucléaire, aux armes de destruction massive, à la robotisation militaire et à la guerre bactériologique. Les experts expliquent que jusqu'au 19e siècle, la connaissance globale avait doublé à chaque siècle. De 1900 à 1950, la connaissance double à un rythme exponentiel jusqu'à ce qu'en 2020, on estime que dans les prochains 20 ans, le ratio d'augmentation de la connaissance va doubler à tous les mois. Si tu ne te réveilles pas, entends ceci aujourd'hui. Nous sommes dans les temps de la fin. Jésus est à la porte. Prépare ton cœur, prépare ta vie à rencontrer ton Dieu. Comprenez-vous? Les enseignants en eschatologie de toutes les époques jusqu'à 1947 se disaient, c'est tellement impossible. Comment est-ce qu'on peut enseigner le retour de Jésus? Parce qu'ils voyaient clairement qu'il faut qu'il y ait un État d'Israël qui n'existe même pas. Il faut que cet État-là qui n'existe pas soit entouré et que les yeux du monde entier puissent regarder. Il faut que le monde entier puisse être rejoint, influencé et trompé en même temps. Est-ce que c'est ce que la Bible prédisait? Que le monde entier, en fait, en termes modernes, serait connecté. Et qu'alors qu'ils seraient connectés, c'est ce qui apporterait la plus grande détresse, la saison de plus grande détresse sur la Terre. L'accomplissement numéro 3, une explosion exponentielle d'informations, vraies et fausses, qui va conduire à une détresse globale sans précédent. Jésus le dit de cette façon. En fait, la Bible prophétise un tsunami d'informations qu'on peut, je pense, retrouver dans l'accomplissement prophétique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui maintenant l'intelligence artificielle. Matthieu 24, 21. « Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a pas eu de pareil depuis le commencement du monde. Jusqu'à présent, il n'y en aura jamais. » L'intelligence artificielle, et selon moi, va changer le monde. C'est l'invention la plus significative de l'histoire humaine. Pourquoi? Parce que c'est la première fois de l'histoire humaine, pour la première fois, nous ne sommes pas l'intelligence supérieure sur la Terre. L'intelligence artificielle pense 100 fois, 100 millions de fois plus rapidement que nous. Elle ne dort pas, elle ne mange pas, elle ne va pas en vacances, elle ne se fatigue pas. C'est des centaines de milliers et de millions d'ordinateurs qui vont être connectés à l'intelligence artificielle. La Bible enseigne que la Terre va se préparer pour la venue d'un antéchrist qui, lui, va s'adresser au monde entier dans leur langue et que être capable d'adresser le monde entier. L'antéchrist, il y a 33 appellations pour lui dans l'Ancien Testament. Il y en a 13 dans le Nouveau Testament. Mais une des choses que la Bible souligne, et je vais lire le verset dans un instant, c'est qu'une chose qui va le marquer, l'antéchrist, le représenter, c'est qu'il va être capable de diffuser la fausseté, le mensonge, la désinformation pour tromper les nations entières jusqu'à leur destruction. 2 Thessaloniciens 2 nous dit ceci. « Pour que l'avènement de notre Seigneur Jésus, notre réunion avec lui arrive, il faut que paraisse l'homme de péché. » C'est des différents titres pour l'antéchrist. Le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Son apparition se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de pouvoirs, de signes et de prodiges mensongers. Satan est menteur depuis le commencement, le père du mensonge. Et avec toutes les séductions du mal pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accepté et reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Lorsque les interprètes bibliques regardaient à cette période que Jésus décrit comme la plus grande détresse, certains disaient c'est maintenant la grande tribulation à cause de la possibilité du nucléaire, de la planète qui se meurt, de tout ce qui va prendre place avec les changements climatiques. De plus en plus d'interprètes bibliques regardent maintenant à l'intelligence artificielle comme le dernier maillon qui était nécessaire pour que la Bible s'accomplisse. Et c'est fascinant pour moi de lire toutes sortes de citations. J'ai sorti plein d'articles là-dessus, mais le brillant astrophysicien Stephen Hawking a écrit, juste avant de mourir en 2018, « L'intelligence artificielle va détruire le monde. » L'intelligence artificielle parle toutes les langues et rejoint le monde entier. Larry Page est le fondateur de Google, qui contrôle les trois quarts des ordinateurs d'intelligence artificielle dans le monde. Et Google n'est pas reconnu pour leur moralité, leur bonté, leur humanisme, leurs droits civiques ou leurs préoccupations pour les citoyens du monde. Et dans une interview avec le New York Times, Elon Musk donne cet échange qu'il dit de son ancien ami qui est fondateur de Google. Larry veut bâtir une superpuissance intelligence comme une déité digitale. Dans le même interview, Elon Musk explique pourquoi il a signé une pétition avec plus de 1000 des scientifiques les plus réputés du monde en intelligence artificielle, demandant une pause, un ralentissement pour mettre en place des normes pour essayer de contrôler le potentiel destructeur de l'intelligence artificielle. Et l'interview avec le New York Times de Elon Musk se termine avec ces mots. L'intelligence artificielle donne le pouvoir aux hommes de détruire le monde. Le plus grand danger et la pire menace, selon moi, du monde moderne est la désinformation massive. Ce qui nous amène à un quatrième accomplissement que la Bible décrivait. C'était tellement 5 accomplissements prophétiques. Une explosion de connaissances, un tsunami d'informations. La Bible prédit que dans les millénaires, que le monde, depuis les millénaires, que dans le monde de la fin ne pourra pas prendre place, que lorsque une population mondiale peut vivre les mêmes choses, voir les mêmes choses en même temps, être en termes modernes interconnectés. C'était pas possible il y a 25 ans. Mais des textes comme l'Apocalypse, je vous donne juste des extraits, c'est rempli de passages comme celui-ci, Apocalypse 11 à 14, qui dit « Et tous les signes mensongers se manifesteront à la vue de tous les hommes. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, les nations verront ensemble. Et tous les habitants de la terre admireront ensemble, blasphémeront ensemble. Et une bouche leur fut donnée pour proférer des paroles arrogantes et des mensonges et des blasphèmes contre Dieu ensemble. » La désinformation massive va être instrumentalisée par des nations comme la Russie, l'Iran et la Chine pour manipuler les populations du monde vers la guerre ultime et finale et la préparation de l'arrivée et de l'œuvre de l'Antéchrist. Ils ne respecteront jamais les normes que certaines nations vont essayer d'établir pour limiter et régir l'intelligence artificielle. Ils ne le font déjà pas. Nous vivons les moments les plus dangereux dans l'histoire de cette planète. Il y a 8 millions d'êtres humains dans le monde, il y a 8 milliards, pardon, 6 milliards de téléphones intelligents. Enlevez les bébés, les enfants, le monde entier est connecté pour la première fois. Le monde entier est prêt avec le deepfake et avec l'intelligence artificielle qui traduit dans toutes les langues, fausseté et vérité à la fois. Le monde est prêt pour l'Antéchrist, pour sa séduction, lui qui va dominer et ultimement provoquer les événements qui amèneront la fin du monde et le retour de Christ. Mais juste avant cela, et c'est la période dans laquelle nous sommes, le cinquième signe est celui-ci. Voici le dernier accomplissement. Et nous le vivons et nous allons le vivre plus intensément. La Bible appelle le dernier signe l'apostasie et l'appel surnaturel de l'Esprit. En même temps, 2 Thessaloniciens 2, 1 à 3, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, l'Antéchrist, le fils de la perdition. L'apostasie, c'est des multitudes et multitudes de croyants qui vont, de personnes non croyantes, qui d'une société en masse qui rejette et renie Dieu et tout ce qui est cher à Dieu, toutes les valeurs, tous les principes de Dieu. L'apostasie, c'est des multitudes de croyants qui se refroidissent, s'éteignent et se laissent emporter par les philosophies et l'éthos anti-Dieu dans lequel ils baignent. L'apostasie, c'est des multitudes d'églises et de mouvements d'églises qui vont trahir et piétiner les commandements de Dieu les plus fondamentaux pour être dans l'air de leur temps. Et ils vont devenir desséchés, sans vie, sans puissance, sans témoignage. Mais en même temps, le même texte de Thessaloniciens nous dit, j'invite les musiciens à s'approcher, le même texte de la parole nous annonce l'appel de l'Esprit pour nous. 2 Thessaloniciens 2. Pour nous, mes frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Le salut, la sanctification de l'Esprit et la foi en la vérité, c'est à quoi nous sommes appelés. C'est à quoi vous êtes appelés par notre Évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre appel, le salut, la sanctification de l'Esprit, la foi et la vérité. C'est à quoi nous sommes appelés. En même temps, dans les temps de la fin, on est dedans. L'apostasie, la foi d'un grand nombre qui devient tienne, qui se refroidit. Mais en même temps, l'action surnaturelle de l'Esprit. Dans les derniers temps, je répandrai mon Esprit sur toute chair. Plus de gens vont venir, sont venus. Plus de gens sont venus à Jésus de 1980 à 2023 que de la croix à 1980. C'est un fait statistique, mais la plus grande moisson n'est pas derrière nous. La plus grande moisson est devant nous. En même temps que l'apostasie, nous allons voir l'action de Dieu. Et cette technologie qui peut être utilisée, qui sera ultimement utilisée pour le mal, il y a une prophétie de Jésus qui peut seulement se réaliser dans notre ère moderne. Et cette bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Il y a des dimanches ici à Nouvelle Vie où dans la semaine qui suit, on a 5, 6, 16, 10, 15 pays qui sont connectés. Et ce n'est que le commencement. Cet Évangile va être prêché dans le monde entier. Et Jésus va revenir pour son peuple. Quelqu'un devrait dire amen. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Pasteur Claude? Quelle est la poursuite, la passion et la paix qui doit nous définir comme chrétiens, comme Église? Que devons-nous faire? Qu'est-ce que Dieu nous demande comme chrétiens devant ce qui prend place en Israël, à Gaza, en Palestine, au Moyen-Orient et dans le monde? Quelle est notre passion à nous? Quelle doit être notre poursuite, notre passion? Quelle est la paix qui doit nous définir? Comme chrétiens, comme peuple de Dieu sur la terre, jusqu'à son retour, comme génération qui peut voir le retour du Seigneur Jésus. Parce que tout ce qu'il a prédit, écoute-moi, tout ce qu'il a prédit s'est accompli. Et son retour va s'accomplir avec les signes qui s'accomplissent un à un. Qu'est-ce que nous, on doit faire? Qu'est-ce que Dieu veut de nous? Nous devons prier. Demandez la paix de Jérusalem. Psaume 122. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. Nous devons prier pour Jérusalem. Nous devons prier non seulement pour Jérusalem, mais pour Gaza. Nous devons prier pour les multitudes d'innocents qui sont pris. Nous devons prier et pleurer sur la souffrance qui nous entoure. Nous devons prier que Dieu intervienne. Nous devons prier que Dieu amène la paix. Nous devons prier que Dieu parle au cœur des dirigeants. Nous voulons prier que Dieu fortifie parce qu'il y a des chrétiens à Gaza. Il y a des chrétiens en Israël. Il y a des gens, des multitudes qui sont dans un état de souffrance abjecte. Je crois vraiment que c'est possible. Je le dis sans aucune culpabilité. Mais il faut que l'Esprit de Dieu nous réveille aujourd'hui. Je crois que la majorité des chrétiens... La majorité des chrétiens de l'Occident ne prennent même pas une minute pour prier pour Israël à chaque jour. Je veux, à partir de ce matin, je pense à 1 milliard de chrétiens sur la terre, mais pour nous, pour toi et moi, qu'on puisse lever nos voix vers Dieu comme il nous appelle à faire prier. Parce que lorsque tu pries pour la paix d'Israël, tu ne pries pas en prenant parti, tu pries pour la paix sur toute une région. Tu pries pour la paix pour des multitudes, tu pries pour la paix des millions, et ultimement, tu pries pour le plus de temps possible pour qu'on puisse accomplir l'œuvre de Dieu. Nous sommes appelés à prier, à pleurer, à porter. Nous sommes citoyens du monde, nous devons poursuivre la paix. Tu m'as appelé à prier et nous devons poursuivre la paix. Quand tu en parles, quand tu es en ligne, dans tes actions, dans tes interactions, à toi qui m'écoutes, les prédicateurs, hommes, femmes, dans tes déclarations, nous sommes heureux ceux qui amènent la paix. Dans Jérémie 29, je suis toujours fasciné lorsque le peuple était entouré d'ennemis, de ceux qui ils sont en Babylone, ils ont été amenés en captivité, c'est ceux qui sont entourés de gens qui sont anti-Dieu. Et pourtant, dans Jérémie 29, il dit « Recherche le bien de la ville où tu es en captivité. Priez l'Éternel pour sa paix, en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous. » C'est le temps de prier, c'est le temps de poursuivre la paix et c'est le temps de nous préparer. C'est le temps de nous préparer parce que Jésus n'est pas seulement à la porte des nations et de l'histoire. Il est à la porte de ton cœur. Il est à la porte. C'est ce que Jésus a dit. Il termine son message dans Matthieu 24. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Le figuier, c'est Israël. C'est les nations autour d'Israël. Dès que les branches deviennent tendres, lorsque tu vois ces choses-là prendre place et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Il est à la porte. Il est à la porte de l'histoire. Il est à la porte de la fin des temps. Il s'apprête à déverser son esprit pendant l'apostasie et amener son peuple avec lui. Et après la pire période de l'histoire humaine, inimaginable, la grande tribulation va être sur la terre. Tu peux être de ceux que Jésus va avoir enlevés avec lui en sa présence. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive et le ciel et la terre passeront. Mais mes paroles ne passeront pas. Jésus, le Fils de l'homme, est à la porte. L'Apocalypse se termine avec ces versets. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Savez-vous, c'est quoi le dernier verset du dernier livre de la Bible, le livre le plus prophétique de la Bible, l'Apocalypse? Le dernier verset. Les derniers quelques versets du dernier livre qui adressent la fin de la fin de la fin des temps dans lequel nous sommes. Apocalypse 22, 17 à 19. L'Esprit de Dieu à travers l'Église. Et l'Église dit, viens. Et que celui qui entend et qui a soif, vienne. Et que celui qui veut, prenne de l'eau, vive gratuitement. Car celui qui atteste ces choses, Jésus dit, oui, je viens bientôt. Et nous, son peuple, nous répondons amen. Viens, Seigneur Jésus. Dans les derniers instants de ce message, je vous appelle à pencher la tête pendant un moment. Et ici, tous les chrétiens qui sont dans ce lieu et les milliers qui sont en ligne, et toi, une personne à la fois de l'autre côté de ton écran, Jésus n'est pas seulement à la porte des nations et de l'histoire. Il est à la porte de ton cœur et il frappe. Si tu me laisses entrer, si tu as soif, si tu reconnais ton besoin de moi, à travers nous, par son esprit et à travers l'Église que nous sommes, si imparfaite, si humaine, L'Esprit et l'Église plaident avec toi aujourd'hui. Viens, reviens à Dieu. Alors voici mon appel ce matin pour toi en ligne, pour toi ici, chaque personne unique devant Dieu. Dieu connaît tout de toi, passé, présent et futur. Tu entends ce message, si tu es ici ce matin, tu dis, « Seigneur, je me suis refroidi, je me suis éloigné, je veux revenir à toi. » Je n'étais pas, je m'étais éloigné de l'Esprit qui m'appelle au salut, à la sanctification, à la foi et à la vérité. Tu m'appelles et tu me dis, viens. Et ce matin, je viens à toi. Si tu es ici ce matin et tu dis, je vois ce qui se passe en Israël et dans le monde. Je vois tous ces signes qui s'accomplissent. L'Esprit de Dieu parle à mon cœur en ce moment. Je veux faire ma déclaration de foi. Je parle à des jeunes et des moins jeunes, de 12 à 92. Je sais qu'il y a une dame qui m'écoute qui a 99 ans qui entend ce message ce matin. Quel que soit votre âge, le nombre d'années que vous êtes à l'Église, quel que soit l'arrière-plan religieux que vous avez, il y a un jour dans ta vie où tu dois dire, je fais mon choix d'accepter le Seigneur Jésus dans ma vie comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je n'ai pas la folie de penser que je n'ai que de, l'orgueil de dire que je n'ai jamais péché. Tous ont péché, qui veut dire manquer la cible, et sont privés de la gloire de Dieu. Jésus à la croix a porté tous tes péchés et les miens, passés, présents et futurs. Il meurt et il ressuscite. Il n'y a rien que tu peux faire pour gagner ton salut. Tu peux seulement recevoir ce que Jésus a offert. Et ce matin, si tu es ici, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de revenir à toi. Je m'étais éloigné. J'ai besoin, je veux revenir. Ta voix m'appelle et tu dis, viens. Alors moi aussi, je dis, viens. Je n'étais pas prêt, mais je vais être prêt. Je veux ce matin, tu as 12 ans, tu as 15 ans, tu as 20 ans, 30, 40, 50, 60, 80. Tu viens à l'église de manière machinale ou parce que tes parents t'amènent ou parce que ton épouse ou parce que c'est ton héritage ou tu étais chrétien, brûlant à un certain moment donné, mais tu étais éteint. Mais au moment où on se parle, sois honnête, tu es éteint spirituellement. Tu as besoin de te lever et de dire, Seigneur, je reviens à toi. Seigneur Jésus, je vais être prêt pour ton retour. Seigneur Jésus, tu frappes à la porte de mon cœur depuis longtemps, longtemps. Mais ce matin, je te dis, viens. J'ai soif, j'ai bu à tout le reste, mais j'ai soif de toi, j'ai soif des eaux que toi tu donnes. Je reviens à toi, Seigneur Jésus, ce matin. Je reviens à toi. Et pour toi qui n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu es en ligne, tu regardes ce message ou en ce moment ici dans cette salle. Je n'ai jamais donné ma vie au Seigneur. Je ne savais même pas réellement tout ce que c'était. Eh bien, si tu sais que tu es né, tu comprends que tu as une date de naissance physique, tu es né physiquement, Jésus dit, tu dois naître de nouveau. Et tu peux naître de nouveau aujourd'hui et toutes tes fautes passées, présentes et futures, effacées. Et comme Jésus est mort et ressuscité pour toi, tu peux le recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur et la même puissance de la résurrection, l'Esprit de Dieu. L'Esprit et l'Église t'appellent à venir. Et le même Esprit de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts peut habiter en toi et ça va changer ta vie ici et ça va changer ta vie pour toujours, ton éternité. Le croyant n'a pas peur lorsqu'il voit les signes du ciel. Le croyant va aux études et travaille et développe sa carrière et élève ses familles. Et le croyant est épanoui quelles que soient les circonstances autour. Il a compassion pour ce qu'il voit et entend, mais il est sur un rocher. Jésus-Christ est notre rocher. Et il n'y a aucune peur dans nos âmes parce que nous sommes sur un rocher, celui qui possède tout entre ses mains et qui nous prépare pour être réunis avec lui. Alors voici l'appel ce matin, c'est ton moment. C'est ton moment ici dans ce lieu et en ligne. Si vous êtes ici, vous dites, je veux venir à Jésus. Je veux revenir à lui. Je m'étais éloigné, mais je reviens. J'étais chrétien de nom, mais ce matin, c'est ma décision. En ce 22 octobre 2023, j'abandonne ma vie au Seigneur. Je vais le servir. Je veux vivre pour lui. Ou vous venez à lui pour la première fois. Je veux accepter Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur. J'aimerais vous demander, partout à travers cette salle, de lever la main. Juste lever la main. Partout à travers cette salle. Wow! Une main, deux mains, trois mains, quatre et cinq et six et sept et huit. Wow, des mains qui se lèvent partout dans la salle. Continuez, levez la main et vous la baissez. Quelqu'un encore, d'autres personnes, des jeunes, des gens de tous les âges qui lèvent la main en ce moment. En ligne, tu peux lever la main, c'est plus important, c'est pas important où tu es. Tu peux le faire dès ce matin. Et c'est pas le nombre de personnes qui compte, mais c'est ta décision sincère devant Dieu. Alors je demande à toute l'Église de se lever avec moi et nous allons prier avec tous ceux qui ont levé la main. Et lorsque la réunion va se terminer ici à Longueuil, je t'invite, toi qui as levé la main, que aurais-tu dû faire? Tu veux venir ou revenir au Seigneur? Va à l'espace, bienvenue, à quelqu'un qui va t'attendre pour être là, pour te rencontrer personnellement. Mais maintenant, toute l'Église, nous allons prier ensemble. Et je vais vous conduire dans une prière, et toi en ligne, tu peux la prier avec nous aussi. Prie-la avec nous, parce que tous ensemble maintenant, nous allons joindre nos voix à tous ceux qui ont levé la main, ceux qui auraient dû lever la main. C'est ton moment ce matin, parce que parfois on ne sait même pas comment prier. Ce n'est pas la répétition qui compte, mais ton cœur sincère alors que tu vas prier. Alors prions ensemble en disant, Seigneur Jésus, je viens à toi, je reviens à toi, je te demande pardon pour toutes mes fautes et tous mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je viens à toi. Je reviens à toi. Je veux vivre pour toi. Je sais que tu es mort pour moi. Tu es ressuscité pour moi. Et tu vas revenir pour moi. Je veux te servir et t'honorer jusqu'à ton retour. Et Seigneur, maintenant que ton esprit vienne témoigner à chaque personne, en ligne et en personne, qui sont maintenant enfants de Dieu, il n'y a rien ni personne qui pourra les arracher de ta main. Rien ne pourra maintenant les séparer de l'amour de Dieu.